Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Hitman Absolution et surtout, majoritairement, la plupart du temps, nous allons parler du Doritos Gate, cette affaire, cette polémique qui est née le 25 octobre sur le site britannique Eurogamer par une chronique de Robert Florence. Enfin, on va en parler, on va raconter toute l'histoire et puis surtout, on va débattre des effets de ce Doritos Gate ou des non-effets, notamment en France. Et pour cela, je vais accueillir deux de mes chroniqueurs favoris et un nouveau venu. Je commence par Jean Z de France Info. Bonjour Jean.
Salut Erwan.
Clément Appap de Sens Critique. Bonjour Clément.
Bonjour.
Et Martin Lefebvre de Merlan Free, cofondateur de Merlan Free. Fondateur de Merlan Free. Bonjour Martin.
Bonjour.
Merci.
On est plusieurs donc cofondateurs.
Oui, allez, cofondateurs. Merci d'être venu nous parler. C'est peut-être une première, hein. Peut-être que tu reviendras parmi nous, hein, si ça se passe bien, si t'aimes bien. Si t'aimes bien l'ambiance, tout ça. On a des chips. Non, c'est pas le moment. Donc voilà, je t'ai demandé de venir parce que sur Merlan Free, tu suis de très près le Doritos. Tu as suivi de très près le Doritos Gate et surtout, tu es en train de faire. Je suppose que c'est en cours une série d'interviews concernant cette affaire de pas mal de responsables de sites et ou de journalistes. Je ne sais pas.
Bah, pour le moment, on a interviewé d'abord Gaël Poichy-Fouquet de Gamekult, après on a interviewé le directeur général de jeuxvideo.com, Cédric Mallet, et puis après, bon, on va essayer encore d'en avoir quelques autres en entretien, à voir s'ils vont accepter et si on va continuer ça longtemps. C'est pas non plus notre premier but, hein, les observateurs.
On a déjà évoqué à plusieurs reprises Merlan Free ici même dans Silence on Joue, hein. On ne peut que conseiller à nos auditeurs d'aller faire un tour. C'est une vision, mais on en parlera, hein, de vision un peu différente de la façon de traiter le jeu vidéo, des articles de fond et pas mal de choses très 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 intéressantes. Mais on va commencer le programme quand même avec toi Clément, la Wii U, non pas la Wii U d'ailleurs.
Non, la Wii U donc arrive très bientôt, le 30 novembre en France, mais on a appris tout récemment qu'il y aurait une Wii Mini, voilà, iPad Mini, Wii Mini, c'est la mode. Alors en fait la Wii Mini c'est une Wii donc un peu plus petite qui sera fournie avec un Nunchuk et un contrôleur en rouge juste sur le territoire canadien. Pour $100.
Mais est-ce que c'est pas parce que la fuite vient du territoire canadien qu'ils essayent de faire un damage control en disant non, mais c'est juste là-bas, vous inquiétez.
Oh, il y a des chances que ça arrive un peu après. Alors, le problème de cette
parce que je vois pas la spécificité du marché canadien pour.
C'est un test peut-être.
Ouais.
Voilà, ça sort le 7
Surtout
décembre.
Ils ont plutôt des grandes maisons là-bas avec les grands espaces canadiens,
ouais,
et tout ça. Ils
non,
pas
mais
besoin.
Oui,
ah,
ça peut-être. Hein. Non, mais il y a des chances que ça arrive après. Mais la Wii Mini, de toute façon, elle nous parlera peu à nous. Parce que donc c'est une oui, donc déjà ça nous parle plus trop. Voilà, première chose. Seconde chose, elle a plus la rétrocompatibilité GameCube. Mmh. Et troisième chose, il y a plus de modem, donc il y a plus de connexion, enfin, plus de modem, il y a plus de connexion à Internet.
Ah, bien
donc
bien.
Voilà, donc c'est une oui quand même, on va dire
une
sous-oui faite voilà pour les familles, pour les enfants, etc.
Alors au-delà de cette oui, t'as encore un projet Kickstarter.
Ouais, alors Kickstarter, moi j'aime beaucoup, mais à la fois en fait c'est comme un éditeur, c'est-à-dire que les grands noms et les grands projets ont beaucoup de facilité à trouver beaucoup d'argent, mais les petits projets, les petits noms ont généralement un peu plus de difficultés. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Kickstarter, c'est que en fait cette année, il y a beaucoup de genres de jeux que moi j'adore qui reviennent à la mode, notamment le space opéra, l'exploration spatiale où on peut être à la fois gangster, pirate, marchand, etc. Donc il y en a plein qui arrivent. Il y a évidemment Star City, qui est le successeur de Wing Commander, historique de Wing Commander. Il y a le Elite Dangerous, qui est la suite spirituelle, enfin la suite des Elites, même si celui-là est très flou. Moi, j'ai donné mon argent, mais effectivement, c'est très flou, mais on a envie, voilà. Et enfin, il y a un petit jeu.
Mais il y a quand même Raven derrière, donc.
Oui, mais c'est en gros, là, ils ont eu de l'argent juste sur leur nom et sur leur truc. Ils ont quasiment rien dit gameplay. Enfin, c'est très, 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 très flou.
Bah, et Double Fine, c'était un peu ça.
Oui, mais on sentait qu'ils avaient. Qu'ils avaient déjà leur idée de ce qu'ils allaient faire. Privateer, c'était plus... lapsus. Elite, c'était plus... est-ce qu'on peut avoir cet argent, $500,000? Oui, bon, on peut l'avoir. Bon, on va faire le jeu. Et donc là, c'est un petit jeu qui s'appelle Limit Theory, qui est fait par un développeur indé, tout seul. Et en 3 mois, il a déjà montré beaucoup de choses. Donc là, si vous allez sur Kickstarter et que vous allez dessus, vous voyez des vidéos de gameplay, etc. Il demande beaucoup moins d'argent, 50 000 pounds, je crois, ou dollars. En tout cas, il les a dépassés. Et voilà, c'est un jeu que moi j'attends beaucoup. Et je suis content aussi que des petits jeux dans ce domaine-là, entre guillemets, des petits jeux avec moins de moyens, etc., mais qui sont originaux, y arrivent. Donc voilà, Limit Theory, qui fait partie maintenant de mes jeux les plus attendus de 2013.
Et donc, Jean, voilà. Tu vas faire un mash-up de ton côté, c'est-à-dire oui, plus jeu indé, ça donne...
ça donne une bonne nouvelle pour la future Wii U et les développeurs indés, puisque l'eShop veut attirer de nouveaux titres, de nouveaux jeux, et notamment des jeux indés, et donc elle va faire un truc assez sympa, c'est qu'elle ne fera pas payer les mises à jour, les patchs sur ces jeux-là, alors que contrairement à Microsoft et PS3...
En fait, c'est une bonne nouvelle comparée à l'existence existant à ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire qu'on a, je ne sais même plus si on en a parlé à l'époque, mais le créateur de Fez avait galéré à l'époque pour patcher son jeu parce que ça coûte un bras.
Ça coûte un bras, $40,000 exactement, selon cet article américain. Et alors, on a visiblement l'article, l'auteur n'a pas réussi à avoir les chiffres pour Sony, mais c'est aussi payant.
Mais $40,000 par patch, c'est ça ?
Par patch, exactement.
Voilà. À part le premier, apparemment.
Alors que Nintendo, c'est patch comme vous voulez, quand vous voulez, et c'est gratuit. Donc évidemment, on veut remplir l'eShop du côté de la Wii U. Ah oui. Ben, on rattrape son retard. Et comment rattraper son retard? Par le gratuit.
Mais c'est une bonne, une quatrième plateforme indé, hein, après le PC quand même.
Mais la Wii et la Wii U, on en parlera. Mais en fait, le problème c'est de l'eShop, c'est que ça met 3 plombes à télécharger aussi.
Enfin, les autres sont pas nettement mieux. Hein. Je voudrais pas.
Le PSN
un peu atroce aussi.
C'est un cauchemar. Hein,
et puis même Xbox, tu lances ton jeu, ça va un peu plus vite. Enfin,
je me rappelle encore Unfinished Swan que j'ai lancé et j'ai pu y jouer 4 heures plus tard quand même. C'est je rappelle, j'ai la fibre pour s'emmerder.
Peu ou prou.
Je rappelle déjà en ce début d'émission que la semaine prochaine, on a parlé de la Wii U, on en parlera la semaine prochaine en live, en public à la Gaîté Lyrique de 19h à 21h. Pourquoi ? Parce que c'est la 200e de Silence en Joue, donc vous êtes tous chaleureusement conviés à cette...
Ce sera le jeudi. Hein,
ce sera le jeudi 6 de 19h à 21h à la Gaîté Lyrique, vient des nombreux. Le com des coms de la semaine dernière, on commence avec un petit nouveau Ephidéos qui vient de découvrir Silence en Joue, donc ça arrive. C'est, il me dit, alors déjà avec les compliments d'usage, hein, qui dit que c'est très agréable, qu'on ait des connaisseurs, tout ça c'est cool. Concernant l'émission, je suis à peu près d'accord avec vous sur tous les points, ce qui était pas mal. J'aimerais cependant revenir sur Halo 4, où selon moi l'humanité de Master Chief et sa relation avec avec l'IA sont vraiment au centre du jeu, au même plan que l'intrigue autour du didacte. On prend vraiment, on prend réellement conscience de jouer une personne. C'est la cinématique d'intro et de fin, et ce sera sûrement le thème de la trilogie. C'est comme quoi on redonne une humanité à Master Chief, ce qui est quand même, moi, ce qui a été un peu un de mes freins sur la série Halo jusqu'ici, où j'avais pas l'impression d'avoir un vrai personnage palpable. Bon, j'ai toujours pas joué à Halo 4, hein, mais donc je fais une confiance à Fidéos. Hein, voilà. Power Mugen qui dit « Tout cet enthousiasme sur Altminds me laisse perplexe. J'ai abandonné dès la première mission quand on m'a demandé d'analyser une vidéo avec des outils assez nazes, basés sur un player Dailymotion peu pratique. Je trouve les acteurs assez mauvais, le scénario ne m'intéresse pas. Bref, je ne suis pas la cible du tout. » J'ai pris ce commentaire, c'est pas le seul à avoir dit ça. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, assez même étonnant. Enfin, je m'attendais pas comme ça à une sorte de rejet qui touche un public gamer. Gamer, ça veut tellement rien dire, un public gamer. Mais voilà, les gens qui ont l'habitude de jeux plus classiques en général, c'est vrai que Altminds propose un truc. C'est vrai que s'ils s'attendent à avoir une interface façon jeu next-gen pour l'analyseur de vidéo, pas ça.
Mais moi, je peux comprendre. Moi, j'ai pas encore plongé dedans. Je vais y plonger parce que j'ai envie de découvrir et je suis curieux. Mais moi, ce qui m'avait calmé dès le départ, quand même, c'était la première vidéo qui ramait.
Moi, j'ai pas eu de problème de.
Mais voilà,
de
donc moi, je peux comprendre que des problèmes techniques t'empêchent.
Là, c'est pas des problèmes
techniques.
Oui, mais
c'est pareil. C'est l'interface. C'est du.
Non, parce que
j'ai cru comprendre que c'était l'interface qui était un peu
c'est
chier,
vraiment par exemple l'analyseur de vidéo d'Altminds, on fait pause et puis on analyse et donc ça passe et puis ça rend l'image un peu plus nette avec des détails, etc. On peut zoomer, on peut dézoomer, puis basta, et puis on change le contraste, la luminosité, la saturation de l'image, et c'est tout. Après, c'est vrai que voilà, on n'est pas mais c'est un petit outil, c'est quelque chose qui donne ce petit côté série télé d'analyse d'image. Enfin, c'est tous les trucs qui nous font hurler quand on voit des choses dans les séries télé avec les gens qui rendent net une photo floue.
Sauf dans Blade Runner, il était fantastique, l'analyseur.
Ah oui, c'est vrai. Le zoom infini.
Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est aussi un produit pop, c'est-à-dire qu'il est pensé pour tous, c'est-à-dire que le moindre fan de polar va vouloir, ou de thriller va vouloir y aller, même s'il ne lit que des bouquins et qu'il n'est pas trop effrayé par le mot jeu vidéo, il va se dire, quand même, moi aussi j'ai envie d'en être. Ouais. Quoi. Donc ça peut déstabiliser aussi.
Hein. Et il y a, je pense, un prérequis de vouloir, enfin d'être assez ouvert pour pouvoir s'intéresser au déroulement, à l'histoire et à tout ce que propose Altminds vis-à-vis du temps réel, de vivre l'aventure en temps réel et tout ça. Bon voilà, après il y a des gens qui ne se considèrent pas la cible, même moi.
1er décembre, hein, ça commence
le temps réel, ça recommence vite.
Mais ça va commencer pour de vrai, en payant, on va dire. 1er décembre, ouais. Voilà. Ça va
et enfin, Yoruishi89 qui revient sur ce qu'on a dit sur Call of Duty Black Ops 2. Il me prend à partie. Donc Erwan, lorsque tu dis que c'est la sixième année que Activision propose la même chose, c'est-à-dire le même gameplay, le même univers, le même environnement graphique, cela peut aussi se diriger vers Nintendo ou Electronic Arts, car je ne vois pas en quoi chaque nouvel épisode de New Super Mario Bros, unanimement plébiscité par la presse, ou de FIFA Madden, innove par rapport au précédent opus. Certes, il y a quelques années, c'était Electronic Arts qui avait le rôle du grand méchant dans le monde du jeu vidéo. Mais bon, tout cela pour dire qu'il faut arrêter d'espérer que le produit culturel le plus vendu au monde fasse avancer le médium. S'il est le premier, c'est bien parce qu'il a une raison. Alors voilà, j'ai un peu de mal à voir le lien de cause à effet. En effet, c'est un jeu facile à prendre en main, moderne dans le contexte, sans être nauséabond comme Medal of Honor, avec un contenu que peu d'autres titres peuvent se targuer de proposer, solo, multilocal, multi en ligne, mode zombie. Voilà. Bon, on sait qu'il y a des gens qui aiment la série des Call of Duty Black Ops 2. Là où je ne suis pas d'accord, c'est le produit culturel le plus vendu au monde pourrait faire avancer, pourrait proposer quelque chose de nouveau, pourrait faire avancer le jeu vidéo.
Mais il n'avait pas l'air catastrophique quand même, cet épisode-là. Moi, je n'y ai pas joué non plus encore, mais il n'avait pas l'air...
Il me semble qu'on a souligné aussi que le scénario voulait aller un peu plus loin, que c'était certes des pistes, des ébauches, qu'il n'y arrivait pas, enfin parce qu'il voulait rester sur ses,
toi,
sur ses principes.
Toi, tu as pris le truc avec plus de légèreté. Moi, ça m'est un petit peu tombé des mains quand même.
Non, mais je dis pas le contraire. Moi, ça m'est tombé des mains, ça m'est surtout tombé des yeux. Hein. Je dois dire que là, ça m'a fait mal aux yeux, surtout quand on fait Far Cry ou quand on fait Assassin's Creed. Mais de fait, ils ont essayé, ils ont raté, mais on peut quand même dire que c'est un ratage. Je note aussi qu'on a été assez peu finalement à ne pas aimer, enfin parce qu'on a le droit. Hein. Il peut y avoir un blockbuster au cinéma. Voilà, le The Dark Knight Rises, bah non, bof. Ouais, génial, Nolan, c'est un chef-d'œuvre, voilà, machin. Et que finalement, bah, on est peu à, enfin, que la critique est vraiment déséquilibrée.
Ouais.
On a du mal même à dire.
Mais c'est marrant parce que, alors, parmi nos auditeurs, il y en a même qui nous ont reproché de même parler de Call of Duty Black Ops 2 en disant, vous êtes pas là pour ça, on attend pas ça de vous.
Moi, j'avais vu ça.
Bon,
aussi,
après, c'est quand même un jeu, chaque année, j'ai envie de voir ce que propose Call of Duty. Même si j'ai peu d'espoir d'être un jour surpris par cette licence, j'ai envie à un moment de voir qu'est-ce que propose le jeu qui se vend par wagon entier. Enfin, on peut pas essayer de comprendre le jeu vidéo sans essayer de comprendre celui qui se vend le plus au monde. Enfin, c'est quelque chose.
Est-ce que Call of Duty se vend vraiment comme produit culturel ou c'est plutôt les modes multi qui font vendre ? Moi, c'est plutôt cette impression-là que j'ai. C'est bon, il y a une campagne qui vaut ce qu'elle vaut, qui est pas très longue, mais le corps du jeu, c'est plus un truc sportif quelque part que.
Je suis pas d'accord, moi. Je pense que le multi, en fait, il fait la communauté, il fait le core gamer, mais il fait pas le.
Il fait pas les ventes par camion entier.
C'est comme StarCraft. C'est-à-dire que StarCraft, t'as le multi qui fédère quand même une partie des joueurs par hardcore, mais voilà, moi, par exemple, le solo, je m'en fous, mais autour de moi, les non-joueurs, ils l'achètent parce que justement, t'es porté par le truc et
moi je connais autour de moi
je pense qu'en juste multi ouais. Ils se croûteraient quand même vachement plus hein. je pense hein.
Mais après est-ce que c'est un produit, enfin moi j'appelle, voilà, c'est un jeu vidéo, c'est un produit culturel, enfin c'est aujourd'hui c'en est un, enfin c'est de fait, on peut dire voilà qu'il y a des films où il y a des Justin Bieber aussi est un produit culturel hein. C'est, on n'y peut rien, c'est,
il est sur Sens Critique, c'est un produit culturel.
Ok. On va parler du Doritos Gate, on écoute un petit extrait du Doritos Gate.
Well, I think what's great about New York Comic Con is that you get to see games almost in their final form. So, you know, Assassin's Creed 3 was there. That's coming out in just a couple of weeks. But, you know, looked absolutely beautiful. There was Aliens, Colonial Marines from Gearbox, which was nice to see. And I'm excited about that one. And obviously, you know, Halo 4. Was there,
cette voix, c'est celle de Geoff Keighley, qui est ce journaliste vedette canadien. La vidéo s'appelle Pixel Perfect Interviews Geoff Keighley et ça s'est déroulé au New York Comic Con. Pourquoi cette interview ? C'est parce que c'est de cette interview dont est issue l'image symbolique, l'image représentative du Doritos Gate. C'est l'image qu'avait choisi Robert Florence, ce chroniqueur de Eurogamer. .co.uk pour illustrer sa chronique Table of Doritos. Donc il avait sorti comme ça une je crois que c'est NeoGAF qui avait sorti la capture d'écran en premier, le forum bien connu hein, sur le jeu vidéo. On y voit donc Geoff Keighley l'air un peu abruti, enfin dans son air un peu comme ça à regarder dans le vide, entouré à sa gauche d'une table pleine de Doritos et de Mountain Dew, et à sa droite d'une grande affiche Halo 4 avec Doritos et Mountain Dew. Voilà, il y avait ces représentatifs comme ça, peut-être Robert Florence avait considéré que c'était représentatif de l'état de la presse jeux vidéo actuellement sur le territoire britannique et puis au-delà. Donc Martin, toi tu as parlé, tu as fait un texte qui s'appelait Les Ambianceurs,
oui,
sur Merlan Free, et est-ce que tu peux résumer un peu comment s'est déroulé le début de ce Doritos Gate ?
Alors c'est compliqué parce qu'au départ c'est parti de deux polémiques qui étaient un peu confidentielles. Donc c'est parti de cette image qui faisait le tour des forums et c'est parti aussi d'une polémique sur Twitter entre journalistes anglais concernant les Video Games Awards. Mmh. qui non c'est pas ça c'est pas
les Games Game Media Awards.
Les Game Media Awards, donc en fait qui est une cérémonie qui récompense les meilleurs journalistes anglais et qui est organisée par MCV et aussi par où il y a des RP qui votent.
Ouais. Oui, c'est
et en fait voilà, et c'est que le problème des Game Awards, c'est-à-dire que tous les gold sponsors, donc tous les sponsors principaux sont du jeu vidéo. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est un peu les jeux vidéo qui payent
pour récompenser les meilleurs journalistes.
Ouais.
Et donc ça avait déjà fait parler sur Twitter notamment suite à une
dispute en fait entre une journaliste débutante qui s'appelle Lauren Wainwright et John Walker qui est le rédac chef et le cofondateur de Rock Paper Shotgun, donc un blog très
plus qu'un blog ouais,
très, ouais, ouais, ouais. très reconnu ouais. Sur le PC et en fait donc Florence a écrit là-dessus. Florence, c'est pas son premier coup hein. Il avait déjà écrit un papier assez violent contre les Babes qui était à l'Eurogamer Expo sur Eurogamer. Donc il avait déjà osé quand même un peu, et ce qui s'est passé en fait c'est que Lauren Wainwright a menacé d'attaquer en justice Eurogamer
parce que Robert Florence dans sa chronique cite nommément cette journaliste, évoque par ailleurs le fait, alors évoque cette polémique, évoque aussi par ailleurs le fait que dans, je crois hein, que elle avait non ça s'est sorti après en fait le truc avec Square Enix
c'est sorti après
ah oui d'accord oui
non, donc, c'est stressant ça. Ouais, on en parlera peut-être après,
tout de suite d'ailleurs. Donc en fait la journaliste demande de supprimer le passage où elle est citée nommément avec menace de procès. Eurogamer, on sait comment ça se passe en Grande-Bretagne et ça va vite ce genre de choses. Eurogamer s'exécute la mort dans l'âme hein, parce que le rédac chef a expliqué après que c'était pas du tout une décision facile et là c'est le drame.
Florence part, il claque la porte. Et le papier fait un bruit monstrueux dans la presse anglo-saxonne. Il fait un bruit monstrueux sur NeoGAF. Alors je ne sais pas combien ils en sont de pages. Ils doivent être à 170 pages de forum. Il y a tous les grands noms quasiment de la presse anglaise qui sont obligés de s'engager dans un camp ou dans un autre. Donc ça fait vraiment vraiment un gros bazar.
Même au-delà de ça, il y a l'article sur Forbes. Voilà, ça c'est sorti en fait de la sphère du pur jeu vidéo, quoi.
Et évidemment polémique sur les réseaux sociaux là partout où quelqu'un peut parler peut s'exprimer on parle de cette affaire là et d'ailleurs la journaliste qui est au début de cette censure en a fait les frais parce que sur son profil Twitter était précisé qu'elle était journaliste pour le Sun et qu'elle avait été consultante pour Square Enix et les internautes ont retrouvé des previews un peu dithyrambiques sur Tomb Raider. Enfin bon, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui.
Ce qui a déclenché la chose, c'est qu'en fait, elle trouvait qu'il n'y avait aucun mal à faire la publicité pour gagner une PS3. Et puis après, juste après, elle disait du bien de Tomb Raider. Et c'est ça qui avait mis la puce à l'oreille du journaliste. En disant, tiens, elle dit bien de Tomb Raider, alors qu'en même temps, elle bosse pour Square Enix. Donc c'est ça qui lui avait.
C'est intéressant, Lauren Wainwright. Parce que vous savez pas ce qui lui est arrivé à Lauren Wainwright. Elle s'est fait virer de MCV. Ouais. Parce qu'elle était stagiaire là-bas. Et en fait, finalement, elle était indésirable aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce scandale et il y a eu deux journalistes qui se sont retrouvés avec un job en moins.
Ouais.
Et finalement, Lauren Wainwright, bon, elle est peut-être emblématique d'un certain système, mais elle n'est pas pire que que d'autres, forcément. Ouais. Elle a un peu payé pour tout le monde.
Alors on va quand même le dire parce que ça va peut-être être aussi le cas dans cette émission. C'est Robert Florence qui a fait un autre texte qui est revenu sur l'affaire, qui s'est déclaré désolé de cette chasse aux sorcières qui a concerné cette pauvre jeune fille qui essaye sans doute de percer dans le journalisme jeu vidéo, peut-être très maladroitement et pas avec le bon bagage culturel, on va dire. Déontologique, mais qui s'en est pris quand même plein la tête partout où les gens pouvaient s'exprimer et Robert Florence s'est dit désolé de cette situation et il a dit une phrase moi que je trouve très juste que tu as aussi cité dans ton papier Martin, c'est don't investigate the people, investigate the system. Donc ça sert à rien de s'intéresser aux gens nommément, c'est tout un système qu'il faut sur lequel il faut enquêter. Voilà, ce sera aussi la situation ici, on va parce que sur justement ici aussi en France, on s'amuse beaucoup à mettre en avant. Oui, alors je sais, tu vas devoir te retenir.
Non,
Clément.
Je souris. Je pense qu'il y a des journalistes qui sont heureux en France, là, qui sourient. Ils disent, on va échapper. On
non,
va
mais
échapper
c'est pas une question de.
Non, sûr,
c'est pas une question pour moi en tout cas. Ce n'est pas une question d'épargner des confrères, d'épargner des choses comme ça. C'est justement, aussi en France, je trouve qu'il y a une très grande mode. Je savais que ce débat allait partir en vrille et je suis le premier à le faire partir en vrille, je suis désolé.
Allez, vas-y.
Mais je trouve qu'il y a aussi une grande mode chez les journalistes de jeux vidéo de citer certains de leurs confrères pour s'auto-absoudre. Je suis moins pire, donc je suis moins pire, donc je n'ai rien à me reprocher. Ben, écoutez, je pense que tout un système est peut-être à remettre en cause. Bref, cette affaire de Doritos Gate a quand même fait pas mal de remous dans la presse, Martin.
Dans la presse anglo-saxonne.
Ouais, dans la presse anglo-saxonne.
Dans la presse anglo-saxonne. Oui. Alors, il y en a qui voulaient pas, par exemple, Stéphane Totilo de Kotaku, il voulait pas en parler, il a fait 10 posts sur NeoGAF, il a fini par être convaincu d'en parler. Bon, alors, il a promis qu'il en parlerait, mais il en a toujours pas reparlé, forcément. Mais par contre, le silence a été un peu assourdissant en France, je trouve. Personne, il n'y a pas quasiment pas une brève à part sur Factor News. Donc, je sais pas, ça a parlé sur Twitter et en France.
Voilà,
calme plat.
Alors en France, grand calme plat, on ne parle pas de ce... Si, on parle du Doritos Gate comme quelque chose qui se parle, et sur les réseaux sociaux, les journalistes évoquent le truc, et la grande blague, que ce soit au Paris Games Week, que ce soit à d'autres soirées, on se prend en photo avec des chips pour montrer qu'on a de l'humour et qu'on fait du lol avec cette affaire, on rigole bien entre nous. Ça c'est quand même des choses qui ont tourné, hein. Au niveau français, c'était un peu les seules réactions qu'on avait de la part des journalistes français. Toi, tu as fait donc ce texte, Les Ambianceurs. Et est-ce que toi, ta perception, parce que tu n'es pas journaliste jeux vidéo, tu es prof par ailleurs,
oui.
C'est par intérêt pour les jeux vidéo d'une manière générale que t'as lancé Merlan Free. Toi, ça a été quoi ta perception de ce truc-là ? Pourquoi est-ce qu'en France, on n'en parle pas ? Enfin, ça a été, je pense, la question initiale de
Oui, j'ai demandé un peu autour de moi. J'ai essayé d'interviewer donc, des journalistes, des responsables de sites pour savoir pourquoi ils n'en parlaient pas. La réponse que j'ai eue, c'est pas la ligne. C'est pas notre ligne éditoriale de parler de ça. La presse n'a pas à parler de la presse. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément intérêt à ce qu'on en parle. Et bon, c'est peut-être aussi parce que c'est un milieu qui est très petit, le milieu du journalisme vidéoludique. Et du coup, on entre très vite dans des histoires de famille, dans des histoires de rivalité, dans des histoires de rancœur. Et c'est pour ça que c'est difficile d'en parler aussi,
oui.
Parce que c'est difficile de parler du système. D'un côté, il faut qu'on ait des exemples, parce que sinon, on nous accuse de parler dans le vide. Puis d'un autre, dès qu'on part dans un exemple, on se retrouve à avoir des histoires de rivalité, de guéguerre, donc c'est très très difficile d'en parler. Je comprends que c'est difficile d'en parler pour les sites.
Et d'autre part que à partir du moment où un site en parle, il va avoir cette espèce de position du chevalier blanc, c'est-à-dire que si vous parlez du Doritos Gate, vous avez intérêt à être vous-même nickel, à ne rien avoir à vous reprocher. Autrement, on va vous tomber dessus. Enfin, il y a aussi ça. Je pense qu'il y a aussi ça qui fait qu'on freine quand même. Mais donc moi, je me tourne vers Clément parce que
bonjour.
Clément, voilà, allez, déjà au moment du lancement, il y a déjà 5 ans de Silence on Joue, tu faisais partie de Gamekult que tu avais cofondé.
Ouais, tout à fait.
Voilà, alors toi, t'as une vision de ce qui se.
Moi, j'ai été. Quand on a créé Gamekult en 2000, moi j'en suis parti, je l'ai vendu en 2007, j'en suis parti en 2008. Quand j'ai créé Gamekult en 2000, j'étais pas du sérail. Donc je sortais, voilà, j'étais jeune et fou, et donc je suis arrivé et j'ai vu un système français, parce qu'à l'époque je connaissais que le système français et après j'ai connu les systèmes anglais, américains, comment ça fonctionnait. J'étais halluciné parce que je savais que c'était de la merde, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que tout le monde était. Alors je vous dis, c'est vachement mieux, hein, mais à l'époque c'était en 2000-2001. C'était vraiment incestueux, c'est-à-dire qu'en gros, c'était je te donne une preview exclusive de tel jeu, donc comme ça, tu auras une petite exclusivité, etc. Mais en échange, derrière, tu me parleras pas de tel jeu.
comme parce que j'ai pas envie qu'on en parle, parce que je sais qu'il est pas très bon. J'ai eu des pressions de malade mental. Les éditeurs qui nous ont coupé, on peut les citer, hein, on peut Microsoft qui nous avait coupé la pub, et c'était le directeur de la publicité de Microsoft qui m'avait appelé pour me dire est-ce que tu te sens bien Clément. Je dis ouais, ça va. Il me fait tu sais qu'on est ton deuxième annonceur pour l'année, donc tu me retires cette news. Je dis bah non, voilà. Donc moi j'étais un peu aussi pas chevalier blanc, mais je comprenais pas en fait. Je comprenais pas qu'en fait ça fonctionnait comme ça, que les éditeurs dictaient les couvertures, que les éditeurs dictaient les notes. En gros, je me rappelle de Infogram quand on avait testé Unreal, un des premiers jeux majeurs qu'on avait testé. On n'avait pas été tendre, on l'avait mis 6/10. Et l'éditeur nous avait appelé pour nous dire il faut que tu remontes la note, sinon on te coupe les campagnes qui ont été prévues derrière. Je dis remonter la note, mais déjà, ouais, je disais, voilà. Alors moi je pas. Du coup, j'ai eu une image, et Gamekult a une image un peu dure aussi, etc. Mais ce qui était le plus hallucinant, c'était pas tant les éditeurs, parce que les éditeurs entre guillemets, ils font leur taf, ils ont envie qu'on parle bien de leur jeu, etc. Mais ça veut dire que ça fonctionnait.
Oui.
C'est ça qui était marrant. Et le pire, par exemple, à l'époque, nous, on avait, enfin, du coup, dans la rédaction, on en avait parlé, on avait fait des règles non écrites, mais qui étaient claires pour moi. C'est que, par exemple, je me rappelle très bien, c'était un jeu de THQ. On l'a tous oublié, c'était un jeu de skidoo, donc un jeu de course de skidoo. Et on était invité en Grèce ou par là pour 5 jours de skidoo. On voyait le jeu une demi-heure. Moi, j'ai dit, bah non, je vais pas y aller parce que déjà, moi, envoyer un mec en vacances gratos, t'es gentil, mais moi, faut dire que moi, j'étais le patron aussi. Enfin, comment dire, j'avais la vision, mais non, je vais pas envoyer un mec pour rien faire, aucun intérêt, quoi. Mais ce qui était marrant de cet épisode-là, spécifiquement, c'est que les autres journalistes nous ont pas aimés. À part quelques-uns avec qui on avait, voilà, qu'on connaissait, mais c'était gens pour qui se prennent Gamekult. De pas venir là, ils se la pètent. C'est pas si Sex and Son, mais le jeu vidéo, c'est ça aussi, c'est le côté cool et machin, etc. Alors ça a bien changé depuis quand même. Ça a bien changé, notamment avec l'arrivée du web. Gamekult, nous on était avec jeuxvideo.com, un des premiers sites web. Avec la grosse arrivée du web, c'est le papier qui était quand même vraiment de la chienlit, qui était un peu pourri au niveau contact. Mais ce que je trouve dommage aujourd'hui, moi, c'est que il y a encore plein de cas qui sont à la limite. Mais ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que je ne pense pas que les journalistes jeux vidéo soient vendus en France. Je pense qu'il y a une autocensure claire et nette sur certains jeux ou certains trucs, ou aussi une autocensure par rapport à l'attente des internautes. Genre, tiens, ce jeu-là est super attendu, donc on ne va pas lui mettre une trop sale note, sinon on va perdre notre truc. Et aussi, il y a ce côté, le milieu du jeu vidéo, c'est un milieu où les annonceurs sont... les producteurs de jeux. Nous, à Gamekult, même, on avait un peu de Renault, un peu de Coca-Cola, mais la plupart du temps, c'est des annonceurs de jeux vidéo. Ouais. Donc, il y a une suspicion de base. Et c'est vrai que celle-là, on ne peut pas l'enlever, mais voilà. Mais je pense qu'il faut clarifier les choses, parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas la réalité, mais l'impression de réalité. C'est qu'en fait, c'est la suspicion. Voilà. Mais aujourd'hui, ça va vachement mieux qu'avant. Mais clairement, moi, ça me choque pas. Enfin, ça me surprend pas que ça arrive. C'est bien que ça arrive un choc comme ça aux États-Unis, en Angleterre. C'est bien qu'à un moment aussi, ce choc-là, il ait des répercussions en France pour que, bon, voilà, des choses soient un peu clarifiées en France aussi, quoi.
Jean, toi, ça fait pas hyper longtemps, ça fait pas 20 ans non. que t'es dans le milieu du jeu vidéo et tu n'es pas dans la presse spécialisée, hein, tu es à France Info, mais tu es spécialisé sur le jeu vidéo à France Info. C'est quoi ton regard d'une manière générale sur le Doritos Gate et sur le milieu que tu as commencé à fréquenter depuis quelques années?
Bon, déjà une petite réaction de franchouillard. Je suis quand même mort de rire que ça arrive aux Anglais qui sont toujours les premiers à tenter de nous donner des leçons de journalisme à qui mieux. C'est tout à fait personnel. Mais alors vraiment, parce que eux ils n'hésitent pas. Hein, on est un peu le pays sous-développé du journalisme, hein, pour eux, quand on le voit bien dans leur regard. Et je trouve ça assez bizarre. Je trouve assez bizarre cette cérémonie, hein, là, de l'industrie qui remet des prix aux journalistes. Enfin, je veux dire, il devrait y avoir des bras d'honneur. Si ça n'existe pas que là, en France, ça existe. Hein. Par exemple, il y a les politiques qui remettent le prix du meilleur journaliste politique. Et là, on fait quasiment pas mieux en matière de suspicion. Moi, je veux vraiment, si je suis journaliste politique, j'en veux pas. Après, moi, j'ai travaillé en tant que critique cinéma, un peu dans la musique. Bon, Je vois un peu mes camarades à France Info, tout au long du couloir de France Info, tous les éditeurs, tout le monde essaie de contrôler les journalistes. Il faut bien quand même essayer de comprendre. Tout le monde essaie de nous contrôler.
Ouais.
Voilà. Et si parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y en a qui veulent faire journaliste, vous allez être confrontés, quoi que vous fassiez, confrontés à ça. Effectivement, il y a ce que dit, c'est assez étonnant de voir que les sites, par exemple, SP, n'ont que des pubs quasiment que jeux vidéo, que de leur propre industrie. Ça, c'est un vrai souci. Je crois qu'au-delà des chartes, au-delà de se défendre, au-delà de ça, c'est un vrai souci. Parce que la principale manne financière, ce sont les producteurs de jeux. Et ça, du coup, ça leur donne vraiment une force. Moi, j'ai de la chance à France Info. Voilà, on est service public. Donc, du coup, la manne financière n'est pas là. On peut être plus libre. Et c'est vraiment une chance. Moi, je veux pas être chevalier blanc de ce métier-là, métier du jeu vidéo. Mais voilà, c'est vrai que je trouve ça étonnant. Et ça nourrit de la suspicion. Voilà. Moi, je rencontre plein de gens. Ils sont honnêtes. Et moi, j'ai envie d'être un peu bené. J'ai envie de dire, tout le monde est honnête. Je m'en fous. Tout le monde a 10. Mais il y a de la suspicion. On peut pas. C'est comme l'affaire Pulvar. J'imagine qu'Audrey Pulvar, c'est une fille cool, sympa, machin, etc. Mais moi, j'ai toujours eu de la suspicion, une fois sa relation avec Montebourg annoncée, j'ai toujours eu de la suspicion dès que je l'entendais parler dans la tête. C'est fou, hein. Et c'est ce qui arrive, moi je trouve, c'est ce qui arrive aussi aux jeux vidéo en France. Et c'est vrai que le silence est assez assourdissant. Je me rappelle de sites spécialisés qui avaient été blacklistés. Ça avait fait scandale, tout le monde en avait parlé, on voulait monter un syndicat. Et là, d'un coup... Et là, rien.
Ouais.
Alors qu'on devrait le faire. Il y a un système de défense par rapport... Il y a une juste distance à trouver avec les éditeurs.
On va revenir sur le Doritos Gate. On a un peu chacun établi les bases. Moi, il y a juste un truc qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire. Parce qu'on parle de la pub, de l'impact de cette influence des éditeurs sur le contenu rédactionnel, etc. C'est vrai, il y a déjà eu des affaires. Ce qui m'intéresse dans ce Doritos Gate... c'est que Robert Florence parle des journalistes. Parle des journalistes et n'est pas du milieu. Robert Florence est comédien. Il connaît pas le milieu. Il a peut-être croisé des journalistes à droite à gauche, mais il connaît pas le milieu. Robert Florence dit dans sa chronique, je stalk des journalistes sur Twitter. Et ce qui m'amuse dans ce truc-là, c'est vrai que la pub, l'influence de la pub, etc. On est dans les rouages, on est dans les choses cachées du journalisme jeu vidéo et de l'influence. Ce qui m'amuse dans ce Doritos Gate, c'est que la partie émergée de l'iceberg suffit largement à parler du milieu du jeu vidéo et de la presse jeu vidéo. C'est-à-dire que les tweets des journalistes suffisent pour en parler. C'est-à-dire que le contenu même des sites web d'actu jeu vidéo suffit à en parler. C'est-à-dire que la partie émergée, la partie qu'on peut observer en tant que simple observateur, je connais pas le milieu, je suis extérieur, machin, suffit pour se rendre compte dans l'état dans lequel est la presse jeux vidéo. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. On reparlera peut-être de cette partie émergée, parce que finalement, les trucs de vraie corruption, les trucs de vraie influence un peu sous le tapis, les coups de téléphone et tout ça, voilà, on sait pas.
Oui,
mais cette affaire-là, elle concerne les journalistes jeux vidéo et un peu la manière dont ils perçoivent leur boulot. On en parle après le jeu de la semaine. Oui, on va en parler un petit peu. C'est Hitman, d'ailleurs, de Square Enix, qui sont assez balèzes quand même dans leur genre. Mais c'est pas le sujet. Donc Hitman Absolution. She's dead, isn't she? Oh là là, c'est original comme fond musical pour un trailer de jeu vidéo. Hitman Absolution, le retour de Agent 47, tueur à gages, on peut le dire, mythique de l'histoire du jeu vidéo, avec son code-barre sur la nuque. Le dernier épisode en date commence à dater un peu, c'était Blood Money, qui était un bon, très très bon Hitman, avec plein de missions. Absolution arrive, sans en dire trop sur l'histoire globale. globalement, il trahit, il quitte l'agence, devient un paria et se fait pourchasser par l'agence justement qu'il employait jusqu'ici. Et c'est pas facile, hein. Il en chie un petit peu, l'agent 47. On n'était pas habitué. Enfin bon, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Jean?
Oui, effectivement, il y a un côté beaucoup plus humain chez ce taiseux, qui est effectivement une machine froide à tuer, mais de manière géniale. C'est-à-dire, il se planque, il s'habille, il se déguise. Bref, c'est vraiment une machine stratégique à éliminer des humains. Et là, on lui découvre effectivement une facette un peu plus sensible. Hein. Il va être protecteur, hein. Au lieu de tueur, il va devenir protecteur. Mais enfin, il va rester quand même tueur. Alors. Déjà, on prend plaisir à le retrouver. C'est plutôt bien foutu. Effectivement, allez, on se déguise, allez, on y va, allez, on se planque, etc. Voilà, tout ça, c'est réussi. Il y a de grands, grands niveaux, notamment un niveau dans le Chinatown, dans un quartier Chinatown qui est...
On doit buter les trois mecs.
Ouais, c'est ça. Et c'est rempli. Alors là... Très étonnant, voilà, c'est-à-dire voir la multitude, la foule, c'est-à-dire que vraiment se blinder dans la foule, c'est incroyable de voir autant de gens sur une map, sur un plateau, et là d'un coup on est dans l'ambiance Chinatown avec ceux qui font la bouffe, le dealer du coin, celui qui protège le grand méchant, c'est justement lui qu'il faut aller buter, et il faut trouver la petite manière pour le faire discrètement, sinon tout le monde vous tombe sur le rab, les flics compris. Bon bref, c'est très très bien foutu. Petite critique des niveaux des choses inégales quand même dans le gameplay. Parfois, on est obligé d'être bourrin. Alors, c'est quand même sur Hitman, on n'est pas censé être bourrin, on est censé vouloir se planquer tout le temps. C'est ça, c'est de la subtilité.
Oui, parce que dans Hitman, en tout cas dans les anciens, il y avait toujours un moyen d'éliminer ta cible en faisant croire à un accident.
Oui.
C'est ça.
Et là, c'est.
Parfois, il y a des moments difficiles.
Pour moi, c'est le gros problème de ce Hitman. C'est qu'il y a des missions. Il y a des missions comme celle que tu viens de citer. Mm-hmm. Il y en a deux à Chinatown. Les deux sont bien. Même la première est un peu plus facile, évidemment, mais c'est le tout début du jeu. Les missions où on a des cibles, où on fait du Hitman, sont très bien, même si des fois on a l'impression qu'il y a un peu trop de solutions. C'est bête à dire, hein, mais moi je me suis presque frustré de l'avoir tué d'une manière, alors que je me dis ah j'aurais pu faire ça.
Des fois on la trouve très vite. Des fois on la trouve très vite. Enfin ah bah non, ça a duré juste 2 minutes. Ouais, il y avait un monde fou, c'était génial.
Oui, moi je me rappelle comme ça d'une mission dans un club de striptease où j'ai vu ma cible, je l'ai suivie. Je l'ai buté et puis j'avais fini. J'ai waouh, quoi. Ouais, c'est pourquoi non, mais il fallait que j'ai le plus le temps d'observer. Et le problème, c'est que voilà, Hitman, on sait qu'on le range dans la catégorie des jeux d'infiltration, hein, depuis le début, on se fait pas repérer pour avoir sa cible, mais c'est un jeu d'assassinat.
C'est plus un jeu d'assassinat que d'infiltration.
Or là, sur pas mal de sujets, c'est devenu une sorte de jeu d'infiltration classique.
Comme un Splinter Cell, quoi.
Comme un Splinter Cell, où il faut échapper. Alors, il y a un niveau interminable, mais vraiment interminable, hein, où il faut échapper à la police. Où on se fait poursuivre, et ça c'est juste à pleurer, j'en pouvais plus. Et ouais, il faut se cacher, il faut se déguiser en policier, faut pas se faire voir, faut se cacher. Et t'as pas de cible, tu dois juste sortir. Et ça, pour moi, c'est pas un Hitman. Et c'est vrai qu'à un moment, tu commences à en avoir marre. Et là, tu te dis, bon, bah voilà, jusqu'à maintenant, j'ai joué le mec discret et tout ça, mais on va bourriner dans le coin. Et c'est là où Hitman arrive à sa propre limite, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour bourriner. Franchement, le bourrinage, c'est pas pratique. Le viser, buter des mecs en cover, c'est pas un bon jeu de cover shooting. On n'a pas l'impression de jouer le méga tueur. Légendaire, alors que normalement, voilà, s'il y a un mode, mais quand on est bien caché pour tuer plusieurs cibles d'un coup.
Splinter Cell d'ailleurs.
Oui, complètement. Oui. Mais quand tout le monde est en alerte, voilà, on est sur du cover shooting classique, et là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est juste pas bon. C'est un jeu classique. Et franchement, voilà, on passe ces niveaux-là, on revient sur un vrai bon niveau d'assassinat et là on kiffe. Et puis on repasse sur un truc de course-poursuite, de fuite, de discrétion. Et ça me tombe des mains. Ou alors on se met à jouer bourrin.
Et quand ça tombe des mains, tu te dis pas tiens là, quand même la prochaine mission va être cool.
Tu
continues quand même parce que t'es porté par les qualités.
Exactement.
Pour moi, ça enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'intérêt de Hitman. J'aurais voulu retrouver un un Blood Money, j'aurais voulu voir cet assassinat dans l'opéra dans Blood Money. Enfin, il ouais. y a des choses comme ça qui restent et dans le théâtre, je crois. À
l'époque. Mais c'est moi, tu m'as quand même donné envie, quoi. Enfin, vous m'avez non, quand même donné envie.
Comme... Sur les niveaux réussis, on s'éclate, on retrouve Hitman, il y a un vrai grand plaisir. Ouais. Et alors, quand on trouve le côté bourrin sur d'autres niveaux, voilà,
attendre un petit peu, qu'il baisse de prix, voilà.
Et parfois, ça peut être long, hein, effectivement.
Et
hein.
Juste, je vais dire aussi un truc, c'est que moi, l'humanité de Hitman, je m'en fous. Non mais c'est vrai quoi.
Enfin, il reste quand même une
oui,
bête.
Oui, mais Hitman qui joue paternaliste qui doit protéger une petite fille sans défense. Merde. C'est je joue pas
surtout
à Hitman
que
pour
surtout que c'est pas très alors je trouve que le scénario c'est mal amené. Non mais parce que c'est amené très vite, on n'a pas le temps de s'attacher, on n'a pas le temps de voir parce que ça aurait pu être intéressant de voir Hitman aller d'un point A à un point B et se dire que psychologiquement comment cette espèce de machine peut aller vers l'humanité. C'est, dans un film, c'est ça qui peut être intéressant par exemple. Là c'est expédié en une mission en 30 secondes en un regard et on n'a pas le temps de s'approprier ça et ça c'était scénaristiquement vachement bien, ça aurait pu mettre plus de temps. Non, ils sont allés beaucoup plus vite. Et du coup, ben, d'une série A, on tombe à une série B, voire scénaristiquement, peut-être à une série Z.
C'est pour ça que moi, pour le coup, en occasion, peut-être un jour, ça vaut le coup. Mais là, je trouve qu'il y a mieux, il y a largement mieux en ce moment. Mais on va recevoir Monsieur Fall, comme chaque semaine. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. C'est un peu notre Robert Florence à nous. Non, parce qu'il y a une chronique Jeux de Société sur Eurogamer. C'était
Rock
ça, sur Rock Paper Shotgun, oui. Donc, Monsieur Fall de TrickTrack.net, bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan. Quel joueur résiste à la provocation d'un lancer de dés? Certainement pas vous. C'est pour ça que cette semaine, j'ai décidé de vous parler de Strike, un jeu de Dieter Nistle, édité par Ravensburger et distribué en France par Oya. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties d'une quinzaine de minutes. Alors attention mon cher Erwan, on n'est pas dans du high level de l'intelligence pure, non. On est dans du hasard pur, le plaisant, celui qui fait sourire, oui. Strike est un pur jeu de dés. C'est-à-dire que dans une boîte, vous n'allez avoir que des dés et des dés à 6 faces. Vous ne mettez pas la boîte de côté puisqu'elle contient une piste que vous allez poser au centre de la table. Chaque joueur va recevoir le même nombre de dés au départ, 8 à peu près environ. On va jeter un dé au centre pour commencer la partie, qui va vous montrer une face. Et chaque joueur, à son tour, va lancer un dé. S'il obtient une face identique à d'autres dés au centre de la piste, il va les récupérer et son tour s'arrête. S'il n'a pas de face identique, il va avoir le droit de rejeter un dé, ou pas. Puisque l'idée, je vous le rappelle, c'est de rester celui avec le plus de dés à la fin de la partie. Donc s'il passe la main, le joueur suivant aura plus de dés au centre, donc plus de chances de faire une face identique. Il va à son tour donc jeter un dé. S'il fait une face identique, il peut ramasser tous les dés à la face identique et il passe la main au joueur suivant. Et là, vous vous rendez compte que bien sûr, vous pouvez augmenter votre quota de dés du départ, puisque si vous faites plein tout le temps, plein, parce que le dieu est avec vous, des faces identiques, vous les récupérez. Alors attention, il y a une petite astuce. Il y a une face de dés qui a une croix. Si vous jetez un dé qu'il y a une croix, il est définitivement viré du jeu. Vous le retirez, donc ça vous fait un dé en moins. Mais vous avez quand même le droit de relancer des dés pour essayer de faire des faces identiques. Enfin, raconté comme ça, ça a l'air complètement stupide, mais c'est un pur bonheur de jeu de comptoir. Un truc qui peut détrôner le 4-21, c'est du bonheur pur. On ne peut pas résister au lancer de dés, c'est stupide. Une partie fait 10 minutes maximum, ça peut aller très vite, hein. Ça peut durer 4 minutes 30. Parce que quand vous lancez des dés et que vous récupérez tous les dés du centre du plateau, imaginons qu'il y ait un dé au milieu avec une face 3, vous jetez un dé qui fait 3, vous récupérez les deux dés. Le joueur suivant n'a plus de dés sur la piste de lancer, donc il va devoir lui jeter tous ses dés et récupérer exclusivement les dés qui ont fait les faces communes. Donc là, on peut se retrouver quand on a 2 ou 3 dés, virer définitivement de la partie, donc très rapidement. Donc c'est un pur bonheur. Ça coûte une vingtaine d'euros, c'est un peu cher dans la mesure où c'est rempli de dés. La boîte est un peu grosse quand même, malgré tout, il y a une piste à l'intérieur. Moi, je ne suis pas un spécialiste du jeu de hasard ni du lancer de dés, mais je peux vous dire que une fois que j'ai fait ma première partie et que je l'ai partie, je n'ai qu'une hâte, c'est en faire une seconde. C'est fin, très fin, ça se mange. Enfin, il y a un petit peu de stratégie tactique tout de même. Il faut faire un petit peu jouer ses neurones pour pas être pris au dépourvu. En tout cas, c'est Strike, un jeu de Dieter Nistle, édité en allemand par Ravensburger, mais en France par Oya. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Pour une quinzaine de minutes, la boîte coûte une vingtaine d'euros. Que du bonheur en bas. Moi, je vous dis, mon cher Erwan, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net. On va passer la minute culturelle. On va passer à la minute culturelle. Marmotte19 m'excusera. Juste une annonce pour pour ceux qui viennent à la Gaîté Lyrique, n'oublie pas, vous avez le droit de préparer une question que vous pourrez...
L'humiliation publique, c'est
l'humiliation
ça.
Publique pour les chroniqueurs. On fera 15 minutes culturelles sur les 2 heures.
Enfin, c'est beaucoup, 15 minutes.
Ouais, non, ouais, c'est beaucoup,
c'est
15
long,
minutes.
Hein, surtout, sur la fin,
ouais, surtout sur la fin. Non, peut-être pas 15 minutes, mais on vous proposera de poser des questions sous la forme de quiz. Voilà, ça peut être rigolo. En tout cas, ça l'était pour la 100e il y a déjà quelques temps. Voilà, on continue sur le Doritos Gate. Je parlais de cette partie émergée.
Donc là, on fait pas minute culturelle.
Non, pas de minute.
Très bien.
Culturelle.
On a gagné.
Voilà,
souffler.
Vous soufflez et vous prenez votre respiration pour la semaine prochaine. Donc ce Doritos Gate, j'évoquais cette partie émergée. C'est que finalement, il suffit d'observer un site, comment il est fait, avec des news, le système de news, hein, par exemple.
News preview test.
News preview test, on voit que dès qu'un éditeur, quel qu'il soit, poste 4 images d'un jeu à venir, ça fait une news. Dès qu'il poste un 8e trailer, ça fait une news. Si le jeu est suffisamment important, ça fait la une du site. Je dis à GTA 5, hein, récemment. Voilà, on est et avec l'agenda de l'éditeur, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui choisit quand est-ce qu'il poste la news. Enfin, quand est-ce que quand est-ce qu'il poste la news, mais finalement quand est-ce qu'il envoie son information. Et finalement dans les 2-3 minutes qui viennent, tous les sites du monde font cette news.
Je ferais bien un concours au chronomètre pour savoir qui va le plus vite entre la news de l'éditeur
Mais pour les previews, c'est pareil. Hein. Pour les previews, c'est pareil. Mais c'est vrai que les previews, moi je me rappelle à l'époque, c'était assez délicat parce que je sais pas, Ubisoft par exemple nous invitait à voir son prochain jeu au Canada et il nous demandait à l'époque, ça a changé depuis, mais à l'époque si on venait, il fallait qu'on s'engage à faire X pages dessus. Donc déjà c'est un peu problématique en termes de voilà, mais si tu vas pas, même si tu t'engages pas à faire X pages, par exemple si tu refuses de tester GTA 4 dans les conditions où il était proposé, c'est-à-dire test chez l'éditeur, où tu vois que le jeu 8 heures, mais ceci dit tu vois le jeu 8 heures. Si tu fais le test une semaine après tout le monde, entre guillemets, en termes d'audience, parce que c'est quand même le nerf de la guerre pour avoir des financements pour grossir, etc., t'es quand même mal barré. Donc de toute façon, t'as une espèce d'obligation mutuelle, bah, c'est ça quand même, hein. Chacun essaie de défendre son bout de gras entre le journaliste et l'éditeur, et après c'est à chacun de savoir, enfin surtout au journaliste de savoir où s'arrêter. Quoi.
Finalement, et je pose la question à vous trois, qu'est-ce qui est le plus gênant que les éditeurs de jeux vidéo contrôlent les finances des sites ? Ou finalement qu'ils contrôlent l'information même. Parce que tous les news qui font quand même 90% de l'audience d'un site, ou 80%, j'en sais rien, mais il y a 50 news pour un test, généralement. Les news, on dit pas de mal du jeu sur deux screenshots.
Sur un trailer. C'est aussi la révolution Google en matière de presse, c'est-à-dire c'est la chasse au clic. Avant on parlait de chasse à l'audience. Alors ça revient pas tout à fait au même. On chasse le clic, c'est-à-dire la moindre news, le moindre machin. Et là les éditeurs, c'est un tapis rouge. Je veux dire, c'est un tapis rouge. J'avais tweeté ça, mais j'ai une demi-photo sur GTA V, et tout de suite, on s'embarque, on devient hystérique. On s'en fout. Enfin, c'est du compte. Enfin, attendez au moins une bande-annonce.
La date de diffusion du teaser qui va annoncer le trailer.
Je pense qu'en France, on est encore un peu en retard. Alors, certes, il y a Merlan Free, voilà, ici présent, mais il y en a peu d'autres comme ça. C'est-à-dire que moi, un de mes regrets avec Gamekult avant de le vendre, c'est pas de l'avoir transformé en plus en espèce de rock paper shotgun. Parce que typiquement, aux États-Unis, t'as beaucoup de sites qui traitent le jeu un peu différemment. Rock paper shotgun, on en a parlé ici. C'est un site qui est réservé au monde PC. Ils font des news, mais ils parlent vraiment de la manière dont ils font pas de notes. Ils parlent de la manière dont ils découvrent même des jeux, etc. Donc c'est pas. C'est une autre manière de. En France, on est vraiment encore sur ce système news, preview, test.
Qui est très ancien.
Qui est très vieux et qui est extrêmement, pour le coup, dépendant des éditeurs. Et je pense que peut-être ça va évoluer et que doucement on va aller vers voilà vers plus de d'éditorialisation, plus de voilà parce
Martin.
Que
sauf que le problème c'est que j'ai l'impression que c'est plus difficile de faire ça en France parce que le marché est beaucoup plus petit. Il y a un public qui est beaucoup plus restreint en France. Les mecs de Rock Paper Shotgun, ils touchent tout le monde anglophone plus tous les gens qui vont lire en anglais.
Ouais, mais c'est faisable parce que tu vois que enfin, c'est faisable, c'est pas facile. C'est pas facile, mais tu vois que dans la presse papier, c'était vraiment cadenassé et bouclé par un éditeur qui avait quasiment tous les magazines papier. Et t'as quand même Canard PC qui a réussi à avoir, en touchant une niche quand même, mais ils arrivent à vivre. Voilà.
Oui, et ils ont très peu de contact avec les éditeurs.
Voilà, ils arrivent à vivre, ils arrivent à toucher leur cible. Et je pense que notamment, tu vois, Merlan Free, qui a une audience très loin d'un Gamecult ou d'un jeu.com, il arrive à trouver sa cible, elle va grossir, Canard Console aussi, il y a des nouveaux quand même qui arrivent, et peut-être qu'à terme, effectivement, peut-être que les plus gros sortiront aussi de cette
logique. Ça viendra peut-être du public aussi qui va être lassé, je veux dire, on a toujours la même chose, enfin je veux dire, moi j'adore les tests, mais si on regarde comment on se fait un test, je parle même pas de critique là, mais un test de jeux vidéo, on est sur le même canevas, je veux dire à 90-95% en France, j'ai l'impression de lire la même chose, et puis si ça se trouve, à la fin, il y a quasiment la même note. Alors autant aller à la note et regarder, ah oui, il y a la différence entre Gamecult, Gameblog, machin, etc. Et puis on commence à faire un jeu des différences de notes, enfin je veux dire, bon, je peux même pas parler de critique, on a toujours la même chose, et il y en a très peu à essayer de faire, bah, je veux dire, autre chose, une critique normale de ce que c'est qu'un jeu vidéo, quoi. Enfin,
moi,
qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il charrie comme idéologie, etc., etc.
Martin, est-ce que ça c'est une question, hein, je me rappelle, on l'avait posé à Pippo Montis à l'époque quand il était venu présenter Barre de Vie, hein, qu'il avait lancé avant Canard Console. Est-ce que la création de Merlan Free, c'est aussi en réaction à cette uniformité qu'il y a dans les médias de jeux vidéo? Enfin, là, je te pose une question personnelle, mais finalement, et en miroir, comment est-ce que toi tu regardes ce canevas hyper strict
Bah, c'est-à-dire que Merlan Free, ça nous permet d'écrire et de lire des choses qu'on peut pas trop lire et pas trop écrire dans la presse classique française. Donc j'ai l'impression qu'on fait des choses qui se font pas trop ailleurs en France. Après, des choses qui se lisent assez facilement dans la presse anglo-saxonne, par contre. Mmh. C'est vrai qu'il y a des sites anglo-saxons qui peuvent nous inspirer. Mais oui, c'est quand même très, très formaté, la presse française. Bah, c'est pour ça que je ne la lis pas beaucoup, en fait. Donc là, je m'y intéresse un peu, mais je ne suis pas un gros consommateur de presse française, parce qu'ils font tous la même chose, quasiment, à quelques détails près.
Et donc, alors, on n'en a pas parlé, mais en France, en tout cas, il y a eu Merlan Free et il y a eu cette interview de Usul, hein, dont on connaît les vidéos sur jeuxvideo.com, sur Rajmag. La presse est un milieu consanguin et la presse jeux vidéo est un milieu consanguin et dégueulasse. Voilà, il faut, c'est ça aussi, relancer un petit peu le truc. Moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est la manière dont. Donc pas beaucoup de journalistes jeux vidéo ont considéré, mais qui sait pour dire ça? Qui sait ce Usul pour et j'ai quand même entendu des choses qui disent des gens qui disaient il n'est pas du milieu, donc il n'est pas légitime pour en parler.
Il fait quoi? Il fait plus de 100 000 vues par vidéo, Usul.
250 000. Ouais, mais il n'est pas considéré. Lui, il n'est pas journaliste de vidéo, donc il n'est pas légitime pour en parler.
Ça me rappelle il y a longtemps où en fait la presse spécialisée jeux vidéo voyait la presse généraliste comme des incapables.
Ce qu'ils étaient aussi pour eux une part. Hein.
Mais c'est vrai. Non, moi je me rappelle et c'était, il y avait une espèce de côté genre nous on est les vrais, nous on est les machins. Alors que moi je trouve qu'en fait le vrai problème en France c'est que la plupart des journalistes de jeux vidéo ce sont des enfin la plupart, il y en a une partie quand même, ce sont des fans qui font ça parce qu'ils aiment jouer et qu'ils sont pas journalistes à la base, en fait. Ils sont contents, limite, quand ils, voilà, ils sont partie prenante, en fait, de leur médium, en fait.
La question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut être journaliste jeux vidéo en étant passionné au premier sens du terme? Est-ce qu'on peut être un bon journaliste jeux vidéo en étant passionné, c'est-à-dire en ayant une relation épidermique, une relation très proche avec le monde des jeux vidéo, hein, avec le sujet même des jeux vidéo?
Qu'on peut pas l'être autrement, parce que sinon on fait pas ça. Par exemple, bon, quand on est journaliste politique, c'est pas parce qu'on aime les politiciens qu'on fait journaliste politique. Par contre, quand on est journaliste de jeux vidéo, c'est quand même parce qu'on aime les jeux vidéo. Donc, a priori, on cherche quand même à défendre un petit peu ce qu'est le jeu vidéo. Mais il y a la passion, il y a l'amour, et puis après, il faut pas être aveugle non plus. Le but, c'est pas d'être dans un amour aveuglé. Ah, c'est très bien tout ce que fait l'industrie. Ah, tout est merveilleux. Ah, je suis content. Ah, je vais mettre l'ambiance. C'est un peu ça le.
Mais moi, je pose une question. J'espère que tu vas pas te sentir visé, Jean, parce que tu as tweeté. C'était sur l'article du Point, qui est sorti sur le Point.fr, un article d'une Claire, je ne sais plus
Claire
comment,
Gallois,
Claire Gallois, sur le jeu vidéo, qui est un article complètement hallucinant, qui m'a fait beaucoup rire. Et j'ai l'impression que voilà, il y a des différentes réactions comme ça face à un article de ce genre, et il y a beaucoup de gamers qui se sentent agressés.
Oui, parce que,
Là,
c'est légitime. Je parle pas moi aussi, parce que j'étais dans le cinéma, un art assez bourgeois, j'étais assez tranquille finalement. Ouais. Pourquoi je me suis allé me foutre dans ce journalisme jeu vidéo? J'étais bien tranquille avec le Cinoche. Oui, parce que cette communauté-là est, depuis trop longtemps montrée du doigt. Et effectivement, aujourd'hui qu'on a le 2.0, c'est-à-dire les réseaux sociaux, quand il y a un tel article, c'est une mèche. C'est-à-dire qu'on, en réalité, et là on change de sujet, hein, c'est-à-dire que il faut voir les joueurs et les passionnés et les amoureux, etc., comme un espèce de flaque d'essence. Et il suffit de faire ça. On jette un article à la con comme ça. Et ça explose. Et ils se servent des réseaux sociaux comme un truc de liberté. Voilà. Donc
Mais bien sûr, est-ce que finalement c'est aux journalistes de défendre le jeu vidéo en tant qu'industrie, en tant que, parce que voilà, c'est aussi,
Bah, quelque part, moi, elle m'agresse. Elle me dit que je suis un serial killer ou un terroriste parce que je joue. Enfin, et surtout, elle agresse au-delà du fait que ce soit du jeu vidéo. Moi, encore une fois, on parle de jeu vidéo, ça touche beaucoup de choses, même s'il y a des spécificités. Elle agresse ma raison, quoi. Il y a un moment, moi, j'ai un cerveau.
Ça, c'est pas faux,
si elle veut la laisser de côté, si elle veut laisser de côté son cerveau, c'est pas parce que moi je suis journaliste que je suis censé défendre. Elle est pas journaliste d'ailleurs, elle est écrivain, que je suis censé moi éliminer mes neurones et dire non, elle est super, hein, cette étude de Laurent Beck sur 23 personnes, c'est génial. Mais effectivement, chaque joueur de Call of est un tueur en série. Si vous voulez abandonner votre cerveau, moi je ne l'abandonnerai pas. Je défends pas le médium jeu vidéo. Je défends mon cerveau, ça me met hors de moi, d'ailleurs ça me met en colère quand j'en parle, d'abandonner cette raison. On a une rationalité, mais c'est pour s'en servir.
Est-ce que vous avez, alors on revient, pardon, de cette digression,
pardon,
mais
pardon.
Je ne pouvais que, j'ai pas pu m'empêcher. Est-ce que vous avez une explication de pourquoi est-ce que les journalistes jeux vidéo, en règle générale, n'ont pas conscience, se considèrent professionnels, impartiaux, mais finalement disent, mais moi je peux recevoir des cadeaux, moi je peux aller aux soirées de lancement fastueuses et tout ça, ça va pas influer sur mon jugement. Et finalement on leur dit, mais c'est pas ça le souci, quoi. Ouais, si tu te considères impartial, t'es impartial. Mais finalement, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que les éditeurs, ils dépensent du pognon pour faire des soirées de lancement, ils dépensent du pognon pour faire des voyages de presse, ils dépensent du pognon pour mettre une salle à la disposition pendant 2 semaines à 10 heures par jour pour que les journalistes viennent tester le jeu dans les conditions qu'ils veulent. Ça coûte du pognon, et il y a un truc qui est, du côté des éditeurs, qui est clair, ça s'appelle le ROI en anglais, le retour sur investissement. Un éditeur ne dépense pas de fric sans avoir un retour sur investissement. Pourquoi est-ce que les journalistes jeux vidéo en France n'ont pas conscience qu'un éditeur recherche ce retour sur investissement?
J'ai pas la même définition de professionnel, en fait, parce que pour moi, un professionnel, c'est quelqu'un qui sait qu'il peut être faillible. C'est pas quelqu'un qui dit, je vous garantis, je suis professionnel, je suis sérieux. C'est quelqu'un qui sait, qui met lui-même des barrières pour éviter qu'à un moment, il soit tenté. Et l'idée, oui, mais je suis de bonne foi, oui, mais c'est vraiment ignorer comment on peut être sous pression, même de manière indirecte. Et j'ai l'impression que ça, ils n'en sont pas vraiment conscients, en fait.
Et finalement aussi, ils font appel à leur propre morale. Enfin, alors que la déontologie journalistique, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est fait pour que le journaliste n'ait pas à avoir affaire à sa propre morale. Il a des règles comme ça qu'il doit suivre. Donc, il n'a pas forcément tout le temps interrogé sa morale pour dire, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. Il y a des règles et je dois les suivre.
Ouais, mais là où c'est humain aussi, c'est que dans la charte journalistique, qui est assez faible, c'est-à-dire rendre compte du monde de manière impartiale et neutre, hein, on n'a pas droit à l'objectivité, donc on vient avec soi et on essaie de raconter le monde, il y a le fait de se rapprocher de la source. On doit se rapprocher le plus près possible de la source, sans se brûler les ailes. Et la juste distance, alors, est-ce qu'on peut parler de charte, voilà, on peut pas, est-ce qu'il faut une charte pour respecter cette juste distance entre, bah là, on parle des éditeurs et des journalistes de jeux vidéo, voilà, et pour dire, voilà, bah, moi là, je peux raconter le monde, et là où je suis, bah, je suis plutôt pas mal, je peux même aller boire un petit coup, même si ceux qui offrent, si je suis arrivé à grappiller des infos, je peux, pourquoi pas, je peux le faire, ou non, je peux pas le faire, la charte me dit non. Ça serait peut-être pas mal de se poser aussi la, cette question pour imposer finalement cette cette juste distance, voilà, c'est ça.
Moi, je suis entièrement d'accord, mais en fait, le problème qui se passe, c'est pas tant aller à la telle soirée, Assassin's Creed ou je sais pas quoi ou autre, c'est en fait, c'est les conséquences directes ou indirectes. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit, quand on a une version de test en avance, ce qui est plus mon cas, voilà. Mais quand on soit une version de test en avance, généralement, on a NDA avec, donc on s'engage à pouvoir le faire avant telle date. Ça me choque pas du tout, mais maintenant de plus en plus, ça s'accompagne de d'éléments, et je pense que ça passe parce à cause de cette connivence qu'il y a dans cette relation, c'est que maintenant, bah je sais pas, on n'a pas le droit de parler de ça et ça dans le jeu. Alors quand c'est un spoil, tu peux le comprendre, tu peux dire oui, je comprends que l'éditeur veut pas que j'annonce à tel moment, il meurt et puis voilà, ça devient une fille ou je sais pas
merde.
Quoi.
Merde. Enfin, non mais si j'ai envie, non, mais, bon, non, mais, je vais me faire insulter par mes éditeurs, mes lecteurs. Non
s'il ne t'oblige pas, mais qui te dit je vous enjoins à pas révéler la fin ou machin, etc. Je peux comprendre.
Mais c'est ces gens très talentueux de Square Enix qui ont donné dans le NDA de Hitman Absolution des détails du scénario à ne pas révéler, que j'ai pas révélé parce que ça me semble complètement hallucinant de révéler ce genre de choses.
Mais le problème, c'est que maintenant, ça vient avec des vous ne parlez pas de ci, vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de ci, vous ne parlez pas de ça, et donc. Et c'est ça le souci, c'est qu'en fait au final ton si tu veux parler du jeu bah tu dois signer le NDA. Ton NDA maintenant tu l'acceptes parce que tu vas pas gueuler parce que justement tu les as vus, tu les connais, tu les machins et tu sais que ça va empêcher tes relations avec eux pour le prochain jeu, etc. Et c'est ça le souci. C'est ça la connivence qui après se voit même dans les tests.
Mais est-ce que c'est pas tout simplement un pénible? Entre guillemets, est-ce que c'est pas pénible d'imaginer pour un journaliste jeu vidéo que ça fait 5, 10, 6, 8 ans, 10 ans, 20 ans qu'il le fait ça? Est-ce que juste tout simplement, ça le saoule pas? Il est bien dans ce milieu tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, il fait son boulot, il considère qu'il le fait bien. Et ce serait quand même bien pénible de se dire, bah, je vais plus faire les soirées de lancement.
Mais bien sûr, évidemment. Évidemment, c'est une zone de confort aussi.
Ouais.
Moi, Gamekult, ça m'a usé. Vraiment. Quand j'en suis parti, c'est parce que ça m'avait usé physiquement, intellectuellement. J'en avais marre. Faut voir un truc. Moi, j'en avais marre de me battre en permanence. Ça m'avait fatigué. C'est-à-dire que je me fais pas chevalier blanc, hein. J'avais vraiment l'impression de lutter en permanence. Chaque fois qu'on écrivait un truc, moi, je faisais vraiment les internautes s'en rendaient pas compte. Parce qu'en plus, ils nous tapaient sur la gueule quand ils étaient pas contents de notre note. Évidemment. Donc, entre marteau et enclume. Mais moi, ça m'avait fatigué et crevé, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit après, je n'approuve pas, mais je comprends les gens qui, à un moment, en ont marre de lutter, etc. Moi, je passais, une heure au téléphone pour dire, je me rappelle, c'était avec l'attaché de presse de Sony. On avait fait le test import de Gran Turismo. Donc on avait acheté le jeu au Japon, enfin au République. On avait acheté le jeu à République. On avait fait le test et il voulait pas qu'on le fasse. Il ne voulait pas. J'ai dit mais écoute, on a acheté le jeu nous avec notre argent, on l'a acheté, machin, etc. On en parle. Une heure au téléphone à me battre, etc. Pour et après ils nous avaient blacklisté pendant. Je peux en parler, c'était longtemps. Ils nous avaient blacklisté pendant 3-4 mois. Il avait envoyé un article, un mail à toutes les autres rédactions en disant regardez ce qui se passe. Si vous ne faites pas ce que je dis, regardez ce qui se passe. Gamekult ne reçoit plus de jeux de Sony. Plus de jeux en avance, plus de jeux machin, plus de trucs. Là, tu dis à un moment, tu dis voilà, tu te bats, mais après, tu en as marre parce que tu dis après, tes lecteurs t'engueulent parce que tu dis ah bah vous n'avez pas le test de machin, il est sur machin. Mais je dis oui, mais on n'a pas reçu la version parce que Sony est machin. Et moi, clairement, moi, ça m'a totalement usé. Et donc, je comprends, enfin, ce que tu dis, moi, je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'il y a un côté confortable en fait à rester dans un statu quo où ça fonctionne et que voilà, mais ceci dit c'est aujourd'hui quand même vachement mieux qu'il y a 5 ans ou 10 ans hein, quand même en termes de
mais quand même enfin oui
c'est quand même vachement mieux
mais
vachement
mieux. L'absence totale de remise en cause des gens de ce milieu est complètement et actuellement sidérante, enfin c'est
tu parles de quoi, des journalistes français?
Ouais, des journalistes français. Il y a Il y a peu de gens qui finalement se remettent en cause ou remettent en cause leur pratique.
Non, non, d'ailleurs, ça devrait être d'ailleurs une nécessité hein, pour toute confrérie, j'allais dire entre guillemets, pour pouvoir avancer tout simplement, ouais. Hein, pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir se démarquer également. Hein, parce que là, la guerre, on a l'impression que c'est les mêmes, etc. Donc oui, ça, enfin, c'est étonnant.
Mais il y a aussi une vraie question économique, c'est-à-dire que si on te dit, bah d'accord, je veux bien aller faire un voyage de presse Ubisoft pour aller voir Assassin's Creed 4. Mais c'est moi qui paye le billet, c'est moi qui paye l'hôtel. Bah là, à un moment, au-dessus, les gens qui gèrent les comptes vont dire waouh, coco, voilà. Mm-hmm. Même ici, nous, on le fait si l'on s'en joue, on n'est pas rémunéré, on fait machin. Moi, ça me fait chier d'acheter tous les jeux que les éditeurs m'envoient pas. Donc du coup, bah, j'en parle pas ou machin, etc. Mais c'est vrai que ça serait mieux ici qu'on ait l'argent de Libé. Pour acheter les jeux dont on doit parler.
Même pas
pour être rémunéré.
Mais l'AFP, je crois, le fait, c'est-à-dire qu'elle paye ses voyages, elle a pris ça, une décision d'il y a un ou deux ans,
non, mais c'est que voilà,
voyages de presse.
C'est voilà. Que voilà, c'est que après,
mais ça coûte, hein.
T'es quand même en crise, les journalistes, la presse JV est en crise.
Et que la presse JV.
Voilà, et que c'est pas,
elle souffre beaucoup.
Et si tu dois dire, bah non, je ne vais plus au voyage de presse, ou alors je paye mon billet à chaque fois, etc. Ça risque d'être chaud aussi.
C'est pour ça aussi que les lecteurs, en fait, payent ce qu'ils ont, quoi. C'est-à-dire, les lecteurs veulent pas payer, ils veulent que les sites
vivent. Je suis entièrement d'accord avec toi.
De la pub, après, voilà.
Je suis entièrement
d'accord. Ils vont être au service des éditeurs, ouais. Forcément.
Bah nous, c'est l'époque. Bon, maintenant, ça n'existe plus, mais c'est l'époque à Gamekult où on avait créé le premium. Où, en gros, tu payais 2 € par mois. Parce que nous, ça nous donnait une force par rapport aux éditeurs aussi. C'est-à-dire, voilà, ouais. tu payes, bah,
ouais,
comme.
Je me rappelle, j'avais payé.
Ouais, ouais.
Je m'en rappelle.
Mais genre, tu payes du contenu. Mais voilà, pour être moins dépendant de la pub. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts, voilà, à ça?
Est-ce que juste on va terminer, hein, parce que bon, un podcast de 45 minutes qui en est à 1h07, on va maintenant, mais juste par une question ouverte pour le coup, il n'y a pas eu d'électrochoc pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'en France, à votre avis, il y ait un électrochoc? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est
je suis pas d'accord. Moi, je trouve que l'électrochoc, on l'a eu avant les Anglais. C'est que il y a plein de pratiques qui se font plus en France, qui se faisaient encore en Angleterre il y a un an ou deux. Il y a plein de pratiques d'inviter les mecs en soirée.
T'es en train de dire qu'en France tout va bien ou...
Non, mais je pense que c'est vrai que j'aurais peut-être espéré qu'il y ait des réactions.
On n'a pas parlé des chartes.
Ouais, des chartes, ou autre chose.
Voilà. Mais... Est-ce que c'est une piste aussi? Parce que un des effets du Doritos Gate, c'est d'avoir des chartes comme VG247, comme Eurogamer, comme le Guardian qui l'a annoncé, des règles précise, noir sur blanc. Tu parlais de cette distance-là. Finalement, est-ce que cette distance-là peut pas être estimée par une charte?
Pourquoi pas? Moi, je suis pas un fan des chartes. Vraiment, c'est plutôt le contraire. Mais
ça peut enlever la suspicion.
Règles,
ça peut enlever la suspicion.
Voilà, le danger vis-à-vis des gens, bah, là, qui nous écoutent, c'est la suspicion. S'ils se disent, Jean-Z et Erwan Cario, ils sont un peu chelous. Ils ont été un voyage. Et tu te dis, tout est foutu. Enfin, je veux dire, c'est tout un travail que t'as essayé de mettre en place.
Mais
d'essayer d'être honnête, d'essayer d'être impartial, de faire ce que tu peux. Quand même, tu n'es qu'humain et tu te retrouves. Oui, ça peut aider.
Mais c'est pareil dans tout, en fait. Moi, quand j'ai essayé de réfléchir, je me disais, c'est pareil dans tous les magazines. C'est que pour moi, il y a quasiment que le canard enchaîné. En fait, t'as pas de pub, t'as le machin. Donc là, voilà, t'as aucune suspicion. Après, dès qu'il y a de la pub, non, mais c'est vrai. Dès qu'il y a de la pub ou dès qu'un journal appartient à telle entité capitalistique, etc., t'as toujours.
Oui, mais ça on est. Si tu commences par dire, on peut rien faire parce que tout le monde est dans le même panier. Il y a quand même, voilà, une charte. Comme avec des règles à respecter, ça peut être aussi une solution. Mais quand on en parle, tu en as parlé avec jeuxvideo.com et Gamekult, moi aussi, il y a un espèce de refus. Enfin, c'est pas notre souci, quoi.
Ça perd de leur priorité. Je pense que ce qu'il faudrait aussi, c'est un observatoire. En fait, c'est pas les lâcher et continuer à regarder ce qui se passe et ne pas que ça retombe. Parce que ouais. Le problème, c'est que là, on est un peu sur la pente du Doritos Gate, mais quand ça va retomber, ça va continuer pareil. Donc le but, ce serait peut-être d'essayer de continuer à regarder, de continuer à voir s'il y a des pratiques qui sont problématiques, et pas juste se contenter que ça passe sur Twitter ou sur des petites rumeurs, mais que ce soit mis en lumière.
Un acrimède de ouais. La presse jeux vidéo,
mais,
en fait.
Ouais, hein. Mais...
Ou une section jeux vidéo sur acrimède. Ça peut être ça. Et ouais, tu disais oui, Clément.
Non, mais c'est vrai qu'il y a, le problème, c'est que s'il n'y a pas, on va dire, d'unité de la presse, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si à un moment, il n'y en a pas un, j'imagine, je dis ça parce que Rockstar est vraiment comme ça, mais si sur GTA V, en fait, déjà, il n'y a que trois presses qui sont invitées et qui peuvent y jouer que 5 heures, Si tous les trois ils gueulent pas, etc., pour dire non, on veut pas tester le jeu comme ça dans ces conditions-là, etc., bah ça continuera aussi. C'est le problème. Et t'as quand même une concurrence entre tous ces organes de presse. Entre guillemets, s'ils ont l'exclu, l'autre l'a pas. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt, on va dire, commun à lutter.
Mais peut-être que justement, un observatoire, ça met tout le monde devant le même risque de se faire flinguer. Généralement, c'est un bon moyen pour mettre.
Oui, mais alors. J'en sais rien. Non, mais j'en reviens à la question journalistique. Parce que croire que ce qui se passe là, ou ce qui peut se passer, cette connivence un petit peu acceptée, n'existe pas ailleurs, en tout cas en matière de culturel, c'est se fourrer le doigt dans l'œil.
J'ai fait du Cinoche.
Je veux dire, il y a des grands mensuels qui sont obligés de vendre des pages. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, on échange tant de pages, encore aujourd'hui, pour avoir telle star. Point. Il n'y a pas de discussion possible et inimaginable. Tu veux, tu veux cette star, c'est tant de pages et la couve. Voilà, c'est comme ça que ça se passe encore aujourd'hui. Donc, effectivement, et alors, on n'a pas fait d'observatoire parce que sinon, je pense. Je sais pas, peut-être une charte, peut-être un syndicat de la presse jeux vidéo, pourquoi pas, pour aussi se défendre s'il y a un blacklist, voilà, on se fait blacklister, hop, tout le monde monte au front.
Je suis assez positif, en fait, là-dessus. Je trouve que ça a quand même vachement évolué en 10 ans. Vraiment dans le bon sens, et c'était pas gagné d'avance, donc voilà, ça se professionnalise doucement et moi je pense que ça va quand même dans le bon sens, quoi.
Bon, bah, on n'a pas fait le tour du Doritos Gate et de ce sujet en manière générale. Il y a des sujets dont on n'a pas forcément parlé. Il fallait en parler quand même dans Silence on joue. Voilà, donc c'est fini cette semaine. Sauf si vous avez d'autres choses, une dernière chose à rajouter ou pas. C'est vrai qu'on a bien, on a soif, on a la gorge sèche. Mais vous n'allez pas échapper à la question. Rituel, oui, on t'a pas prévenu, Martin. La question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Jean?
Fringe, saison 5, ultime saison, épisode 7, incroyable, épisode 7, avec la musique de David Bowie, The Man Who Sold the World, incroyable finale.
C'est fini là?
Ça va finir. J'ai juste l'épisode 7, j'en suis fou. Je l'ai même regardé une deuxième fois. Étonnante série, vraiment, sur la filiation. Beaucoup de tristesse et de mélancolie sur celui-là. C'est très très chargé.
Assez mainstream d'un côté et en même temps complètement barré de l'autre.
Oui, c'est le Lost, on va dire que c'est le Lost des années 2010 ou quelque chose comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, ils s'en rapprochent. Hein. C'est complètement borderline. Mais vraiment, je vous conseille cette série.
Clément.
Moi, je me remets à la lecture de nouvelles. Et en fait, donc, je relis mes auteurs préférés, parce que c'est vrai qu'on oublie, hein. On lit, mais on oublie les nouvelles. Et donc là, je me remets à lire Buzzati. Et Buzzati qu'on connaît surtout pour ses romans. Mais les nouvelles de Buzzati sont juste hallucinantes. Vraiment, vraiment, vraiment hallucinantes. Voilà.
D'accord. Martin?
Ben, moi, je lis, j'ai toujours à peu près 10 livres en même temps sur le feu. Mais là, avec moi, j'ai Les Indes Noires de Jules Verne. Ça fait longtemps que j'avais pas lu du Jules Verne.
Ça vient de sortir ou non?
Oui, ça me remet en enfance un peu.
D'accord. Moi, pour ma part, je suis au début de la deuxième saison de American Horror Story, Asylum, et je ne pourrais que conseiller de se jeter sur cette série un peu de sale gosse qui a tous les outils des films d'horreur, qui mélange tout dans un shaker et qui nous ressort un truc absolument aléatoire à chaque épisode. C'est assez génial. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine en live. C'est jeudi, le jeudi 6 décembre de 19h à 21h à la Gaîté Lyrique.
On m'a demandé, ça sera diffusé en vidéo en même temps ou pas?
Je sais pas encore, ce sera la surprise. On vous annoncera ça, que ce soit sur Twitter, sur écran.fr, on vous dira tout. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour causer jeux vidéo sur Libé Labo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both as twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.